VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 6 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, 10 civils ont été tués en 2 jours dans l'Est par des rebelles ADF.
L'Ouganda a annoncé avoir commencé à tester un vaccin expérimental contre Ebola. Ebola qui a fait en RDC voisine plus de 1800 morts en un an.
En Côte d'Ivoire, l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel pour changer la loi sur la réforme de la commission électorale indépendante.
Ici aux États-Unis, le bilan de la tuerie d'El Paso au Texas s'est alourdi. Il s'établit maintenant à 22 morts.
Pékin laisse chuter le yuan vis-à-vis du dollar, tempête sur les marchés financiers et la Chine accusée officiellement par Washington de manipuler sa devise.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Dans l'est de la RDC, 10 personnes ont été tuées en 2 jours dans des attaques attribuées aux rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées. Le point avec Eddie Isango.
Les ADF ont fait une incursion dans les villages d'Indama dans la nuit de dimanche à lundi et ont exécuté 5 personnes à la machette. Ils ont incendié 15 maisons, a déclaré Dona Kibwana, administrateur du territoire de Beni. Selon lui, 3 autres personnes ont été tuées à Erengeti, une localité au nord de Beni. Samedi, 2 civils ont été tués à Nyaleke, dans la périphérie de Beni, par des miliciens qui interdisaient la circulation sur la route Beni-Kassindi qui mène à Ouganda. Cet incident a été suivi par des affrontements entre les ADF et des soldats congolais. Hier, les activités ont été paralysées pendant plusieurs heures à Erengeti pour protester contre les tueries. La société civile met en cause l'efficacité de l'action militaire contre les ADF. Le porte-parole de l'armée dans la région, Mac Hazukai, a affirmé que les forces armées poursuivaient les opérations contre ces terroristes. Outre l'insécurité, la région de Beni est aussi touchée par l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait plus de 1800 morts.
S'agissant justement de ce fléau, l'Ouganda a annoncé hier avoir commencé à tester un vaccin expérimental contre Ebola, vaccin qui pourrait être utilisé dans la RDC voisine où l'épidémie a fait plus de 1800 morts donc en un an. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'essai du vaccin MVA-BN fabriqué par la société américaine Johnson & Johnson devrait durer 2 ans selon le Conseil de recherche médicale de l'Ouganda. Quelques 800 personnes seront vaccinées. Il s'agit de professionnels de la santé et personnels se trouvant en première ligne comme les agents de nettoyage, les équipes d'ambulanciers, des morgues ou celles chargées des enterrements. Les autorités sanitaires congolaises utilisent déjà un vaccin expérimental fabriqué par le groupe américain Merck qui s'est révélé sûr et efficace. L'Organisation mondiale de la santé a préconisé une extension de son utilisation et recommandé l'introduction d'un autre produit fabriqué par Johnson & Johnson. L'ancien ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, qui a démissionné en juillet, s'était dit opposé à l'introduction d'un deuxième vaccin.
En Côte d'Ivoire, 3 groupes parlementaires de l'opposition ont annoncé avoir saisi le Conseil constitutionnel pour changer la loi sur la réforme de la commission électorale indépendante adoptée la semaine dernière par l'Assemblée nationale malgré leurs protestations. Bagessi Koura.
Les groupes parlementaires PDC-RDA, Vox Populi et Rassemblement disent avoir saisi le Conseil constitutionnel aux fins de constater le non-respect des obligations de l'État du Côte d'Ivoire de créer un organe électoral indépendant et impartial, a déclaré à Abidjan Konan Kofi Marius. Il est député du PDCI, le parti de l'ancien président Henri Konan Bédié. Saisi par la société civile ivoirienne, la Cour africaine des droits de l'homme, qui siège à Arusha en Tanzanie, avait rendu en 2016 un arrêt enjoignant au gouvernement ivoirien de réformer la CEI. Le projet de loi créant la nouvelle commission a été adopté mardi par le Parlement dominé par le RHDP, la coalition du président Alassane Ouattara. La nouvelle CEI doit comprendre donc 15 membres contre 17 auparavant, un représentant du président de la République, un du ministère de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques répartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature.
Des milliers de Guinéens ont assisté hier à l'inhumation dans son village natal de l'enseignant-chercheur Mamoudou Barry, victime le 19 juillet en France d'une agression qualifiée de raciste par ses proches. Le point avec Ekia Badou.
À Bolaroya, son village natal, la cérémonie d'inhumation hier s'est déroulée en présence de membres de sa famille et d'habitants des localités environnantes. La dépouille a été rapatriée de France samedi soir et une cérémonie a été organisée le dimanche à l'université publique Sanfonia de Conakry, où M. Barry avait fait ses études avant de partir en France. Mamoudou Barry, 31 ans et père d'un enfant de 2 ans, est mort des suites de ses blessures après avoir été roué de coups le 19 juillet dernier dans la banlieue de Rouen. Il venait de soutenir sa thèse de droit le 28 juin. L'auteur présumé de l'agression, un Français d'origine turque et présentant des antécédents psychiatriques, a été interpellé et hospitalisé. Nous sommes convaincus que justice sera rendue car les crimes racistes ne peuvent être tolérés, avait déclaré samedi soir le chef de la diplomatie guinéenne, Mamadi Touré, à l'arrivée de la dépouille à Conakry.
Le blogueur mauritanien Mohamed Cheikh Ould Mereitir a trouvé refuge en Europe, a indiqué la branche sénégalaise d'Amnesty International, sans dévoiler son pays d'accueil. Initialement condamné à mort pour blasphème et libéré le 29 juillet après plus de 5 ans de détention, Mohamed Cheikh Ould Mereitir s'était rendu le soir même au Sénégal pour des raisons de sécurité.
Au Nigeria, Ibrahim Zakzaki, un dirigeant emprisonné de la minorité chiite, a été autorisé lundi par la justice à se rendre sous caution en Inde pour se faire soigner. Selon les observateurs, cette mesure est susceptible de faire baisser la tension après des mois de manifestations parfois sanglantes pour réclamer sa libération. Il est détenu avec son épouse depuis leur arrestation en décembre 2015, après la répression d'une manifestation qui avait fait plusieurs centaines de morts.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, l'attaque perpétrée samedi par un tireur dans un centre commercial bondé d'El Paso, ville texane à la frontière mexicaine, a fait 22 morts, ont annoncé hier les autorités locales. Le bilan est donc revu à la hausse après cette fusillade, l'une des deux dernières aux États-Unis. Yacouba Ouedraogo.
Je suis terriblement désolé d'annoncer que deux des patients sont décédés. Une femme âgée est décédée au milieu de la nuit et un autre patient est décédé, a indiqué hier David Schimp, directeur du centre médical du Del Sol. Le précédent bilan faisait état de 20 morts et de douzaines de blessés. L'auteur de l'attaque, un homme blanc de 21 ans, armé d'un fusil d'assaut, a été arrêté. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été animé par un mobile raciste, car ayant ciblé dans cette île des hispaniques dans un centre commercial à El Paso. 13 heures après cette fusillade, un homme de 24 ans a abattu 9 personnes, dont sa propre sœur, dans un quartier animé de Dayton, dans l'état de l'Ohio, avant d'être abattu par des policiers. Dans une allocution hier depuis la Maison-Blanche, le président Donald Trump a condamné le racisme et l'idéologie de suprématie blanche. Il avait ordonné dimanche la mise en berne des drapeaux, comme marque de respect à la mémoire des victimes de ces fusillades devenues récurrentes aux États-Unis.
La Corée du Nord a menacé mardi de réaliser davantage de tests d'armes après avoir tiré de nouveaux projectiles, le quatrième essai du genre en 12 jours. Elle a condamné le début au sud d'exercices militaires entre Séoul et Washington. Selon Pyongyang, ces exercices constituent une violation flagrante des efforts de paix et reflétaient un manque de volonté politique des deux pays d'améliorer les relations.
Les tensions commerciales entre Washington et Pékin ont été exacerbées hier. La Chine a laissé sa monnaie chuter face au dollar lundi et les États-Unis ont réagi en accusant officiellement Pékin de manipuler sa monnaie pour s'arroger un avantage indu en rendant ses produits moins chers à l'exportation. La nouvelle a provoqué une chute généralisée sur les places financières en Asie, en Europe et finalement aux États-Unis. La semaine dernière, le président Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires à la quasi-totalité des importations chinoises à compter du 1er septembre.
D'autre part, le président Trump a ordonné un gel total des biens aux États-Unis du gouvernement de Nicolas Maduro, a fait savoir hier la Maison-Blanche, accentuant ainsi la pression sur le dirigeant socialiste vénézuélien que Washington souhaite voir quitter le pouvoir. Les États-Unis, suivis par une cinquantaine de pays, ont été les premiers en début d'année à reconnaître comme président par intérim le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanik Talani.
La Société sud-africaine de défense de NEL s'attend à recevoir le soutien du gouvernement au troisième trimestre pour sortir de la crise financière. Le mois dernier, elle a demandé 190 millions de dollars. La société, connue pour ses missiles, fait partie des sociétés d'État dont les finances ont été endommagées par des années de mauvaise gestion pendant le mandat de l'ancien président Jacob Zuma. Les travaux de construction du nouveau centre hospitalier régional d'Adzopé à 100 km au nord d'Abidjan en Côte d'Ivoire viennent d'être lancés pour plus de 50 millions de dollars, rapporte l'agence Ecofin. Le nouvel hôpital s'étendra sur 10 hectares avec une capacité de 200 lits. Il devrait être équipé de 3 blocs opératoires, de salles de scanner, de 10 postes de dialyse, d'un laboratoire et d'un service d'urgence. La construction du nouvel hôpital entre dans le cadre d'un accord signé entre l'entreprise marocaine et le gouvernement ivoirien. Rien en mai dernier. Terminons cette Minute Éco avec la troisième édition de Togo Valeurs Culinaires qui se tiendra du 26 au 28 août, révèle le site Togo First. L'objectif est de mettre en valeur les produits locaux et d'encourager les professionnels des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie à promouvoir dans leur menu l'offre des plats préparés à base de produits locaux bio. L'événement réunira des jeunes chefs cuisiniers du Togo qui rivaliseront de créativité et d'ingéniosité dans la préparation de plats locaux.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cyclisme avec le Tour international de la RDC.
Oui, le Rwandais Jean-Robert Roubérois a conservé dimanche le maillot jaune à l'issue de la deuxième étape, pourtant remportée par le Français Gabriel Roger Anthony. La caravane du Tour a fait un transbordement hier vers Kolwezi au sud-est du pays. Les deux équipes congolaises alignées dans cette septième édition sont en concurrence avec 10 équipes étrangères. Parmi elles, une équipe française, une autre hollandaise, une ivoirienne, une angolaise, une togolaise et une béninoise. Le point avec Genovic Mboa de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après 220 km de course, pas de changement au classement général. Le Rwandais Jean Bosco Roubérois est toujours en jaune au terme de la deuxième étape, comprise entre Mbanzangungu et Kasangoulou. Une étape remportée dimanche par le Français Gabriel Roger Anthony. Après avoir pédalé pendant 2 heures, 29 minutes, soit une moyenne de 38,2 km par heure. Mais cette deuxième étape a connu une fin tragique avec la chute d'un groupe des sprinteurs dû au dos d'âne, se trouvant à quelques mètres de la ligne d'arrivée, occasionnant des blessures graves. On écoute le mécontentement de Francis Ducreux, directeur du Tour.
On dit une chose et chacun fait à sa façon. Et je dis que là, il y a une erreur monumentale. Il y a beaucoup, beaucoup de blessés. Ça n'existe pas de faire une arrivée en descente dans n'importe quelle course au monde.
À noter que 3 des cyclistes gravement blessés sont out pour les prochaines étapes qui auront lieu ce mardi dans le Grand Katanga. D'abord, celle qui sera comprise entre Lubumbashi-Likasi, longue de 120 km, puis celle entre Likasi et Kolwezi, longue de 180 km. De Kinshasa, Genovic Mboa Mbaya pour VO Afrique.
Certains cyclistes ont abandonné pour cause de blessures.
Blessés gravement lors de la deuxième étape, l'Angolais Elder Silva et le Français Paul Barret ne pourront pas continuer la compétition. Ils sont rentrés dans leur pays respectif pour des soins appropriés. L'annonce a été faite par Bernadette Mukendi, vice-présidente de la Fédération congolaise de cyclisme.
Nous avons repatrié là avec l'avion TAG notre cycliste angolais du nom d'Elvis. Il doit être opéré à son bras gauche. La prise en charge a été faite au niveau de cinquantenaire. Maintenant, il est stabilisé, il peut voyager et rentrer chez lui parce que les parents ont préféré qu'il rentre pour continuer les soins en Angola.
Il y avait 3 blessures à part l'angolais. Est-ce qu'on peut connaître leur état actuellement?
En fait, c'est un Belge qui est dans l'équipe française. Alors lui, déjà, la prise en charge, les médecins sont au courant et il sera pris en charge à Doornike, là où il habite à Bruxelles, parce que sa mère, d'ailleurs, elle est elle-même infirmière dans un hôpital. Ils ont préféré qu'il vienne aussi là-bas pour être soigné là-bas. Lui aussi doit être opéré d'urgence.
Et qu'en est-il du troisième?
C'était le Burundais. Il a été stabilisé et il a voulu quand même aller avec son équipe au niveau de Lubumbashi. On ne sait pas encore s'il va courir, mais il a voulu être quand même avec son équipe. Et on verra comment ça va continuer, son état de santé. Mais il est hors de danger.
Bernadette Mukendi, vice-présidente de la Fédération congolaise de cyclisme, au micro de Genovic Mboa de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Émotion et colère aux États-Unis après 3 fusillades en une semaine qui ont fait 22 morts à El Paso au Texas et 9 autres à Dayton dans l'Ohio. Après les trois morts le 28 juillet à Gilroy en Californie. Chaque tuerie a laissé de nombreux blessés et vient relancer le débat sur le contrôle des armes à feu. Le point avec Lionel Gahima.
El Paso endeuillé essaie de trouver des réponses sur les motivations d'un tel massacre. Il a été suivi 13 heures après par une autre tragédie à Dayton dans l'Ohio.
Les gens criaient dans la panique et se piétinaient.
À Dayton, la police a répondu moins d'une minute après et a abattu le tueur qui a aussi tué sa propre sœur. Le pays se remettait à peine d'une autre fusillade. Le 28 juillet à Gilroy en Californie, 3 personnes ont été tuées dans une attaque similaire. Pour El Paso au Texas, le tueur semble avoir ciblé les Hispaniques. Greg Allen, chef de la police d'El Paso, à la frontière avec le Mexique.
Il semble y avoir un lien avec un crime de haine. Le FBI et d'autres agences fédérales vont se pencher dessus.
Le président Donald Trump a qualifié de crime contre l'humanité, appelant la nation à condamner d'une seule voix le racisme, le sectarisme et le suprématisme blanc. Le président Donald Trump, ce lundi, depuis la Maison-Blanche.
Nous devons reconnaître qu'Internet a fourni une avenue dangereuse pour radicaliser des esprits déjà perturbés et accomplir des actes déments.
Selon M. Trump, il est trop facile aujourd'hui pour les jeunes en difficulté de s'entourer d'une autre culture célébrant la violence, notamment à travers des jeux vidéo atroces et sinistres.
Nous devons faire la lumière sur les ténèbres de l'Internet et mettre un terme aux meurtres de masse avant qu'ils ne commencent.
Le président américain a ordonné dimanche que les drapeaux soient mis en berne pour les 5 prochains jours. La démocrate Nancy Pelosi et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden affirment qu'une action doit être menée pour stopper la violence. La maladie mentale, les fusils d'assaut et l'extrémisme ont pu jouer un rôle dans ces fusillades de masse au point de devenir un sujet dans la campagne présidentielle. Beto O'Rourke, candidat démocrate originaire du Texas.
Oui, ce sont les lois sur les armes à feu. Oui, c'est la vérification des antécédents. Oui, nous devrions arrêter de vendre des armes de guerre à nos communautés. Mais je pense que nous devons également faire face à cette haine que je n'ai jamais vue de toute ma vie.
Pendant que les habitants d'El Paso font la queue pour donner du sang, beaucoup se posent des questions sans réponse, alors que le débat sur l'utilisation des armes à feu est bien relancé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Girls Get Equal, une campagne en ligne lancée au Bénin et qui s'étend dans tous les autres pays de la CEDEAO. L'objectif est de mettre fin aux inégalités entre les genres et de promouvoir un changement de comportement pour le respect des droits des filles. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
Nous ne sommes pas forcément différents, on est tous des humains. Et lorsque l'on arrive à porter ce regard sur la jeune fille que nous sommes ou les jeunes filles avec qui nous travaillons, on n'a pas forcément besoin de faire remarquer que l'inégalité soit flagrante, même si les traditions culturelles ne nous le favorisent pas toujours.
Pour plan international Bénin, cette campagne reste une opportunité à saisir pour que la chance soit donnée aux filles de se faire valoir. Paul Cal Frédéric, représentant résident du plan international Bénin, soutient que lorsque les filles participent aux prises de décision et sont au centre de l'action, les objectifs sont toujours atteints.
Il est temps que les choses changent. Il est temps pour nous de donner une nouvelle opportunité et surtout d'établir de nouvelles règles et de créer une ère nouvelle qui permet la participation des filles ici au Bénin, à la CEDEAO, dans mon pays en Haïti ou encore dans d'autres parties du monde. Pour plan, il n'y aura pas de chemin aussi long ni de mur très haut pour que l'égalité des filles ne devienne pas une réalité ici au Bénin et ailleurs.
Le roi Gelf, depuis sa création il y a 10 ans, s'est donné pour objectif de contribuer à l'épanouissement de la femme au sein de la société. Cette campagne digitale s'inscrit dans cette logique. Tamia Koko et Irmine Aïrounton, respectivement représentants du roi Gelf en Côte d'Ivoire et au Bénin.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est les messages qu'on a définis dans le cadre de notre campagne. Ensemble, nous avons réfléchi sur les différentes thématiques qu'on voudrait aborder dans le cadre de cette campagne et les messages. Et j'espère vraiment que ce sera une campagne qui va nous permettre d'améliorer la situation des filles au Bénin et également dans l'Afrique.
Même si les réalités socioculturelles ne facilitent pas le combat, les critiques se font aussi sur les stratégies adoptées par les associations de défense des droits des filles et des femmes. Pour Mouleroi Mouzouvi, sociologue de profession, les femmes doivent aller au-delà des clichés.
Dans cette lutte qui est un processus de longue haleine, le problème n'est pas de dire 50%, 50% parité. Responsabiliser la femme aujourd'hui est le seul moyen pour elle de s'imposer à l'homme. C'est un problème purement humain, c'est un problème purement social et il faut responsabiliser la femme. Qu'elle prenne le destin en main, qu'elle travaille.
Plan international et le roi Gelf espèrent qu'au bout des 6 mois, la campagne digitale Girls Get Equal aura réussi à repousser les inégalités dont sont victimes les filles. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le forum annuel de l'AGOA doit se terminer aujourd'hui à Abidjan. La délégation américaine est conduite par M. Tibor Nage, qui doit se rendre aussi au Sénégal. Les pays africains éligibles à l'AGOA peuvent exporter certains produits aux États-Unis à des tarifs préférentiels. Idriss Fall a joint à Abidjan Kara Diallo, spécialiste de l'AGOA, à l'agence USAID en Côte d'Ivoire.
Nous avons 36 pays de l'Afrique subsaharienne qui sont représentés à Abidjan pour le forum AGOA, qui se tient d'ailleurs annuellement. Hier, par exemple, il y a eu le forum du secteur privé où vous avez des entreprises donc de l'Afrique subsaharienne, donc des pays éligibles à l'AGOA, et des entreprises américaines qui étaient réunies au niveau de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, au niveau de la CGFI, pour pouvoir échanger sur les relations commerciales entre les États-Unis et les pays de l'Afrique subsaharienne. Ensuite, il y avait également la société civile de l'Afrique et la société civile américaine qui se sont également rencontrées avec eux. Ont participé les femmes dans le cadre de AWEP et également les jeunes dans le cadre de Yali. Le forum ministériel a commencé et durera 2 jours. Le forum a d'ailleurs été inauguré par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Il y a des ministres et des représentants ministériels de 36 pays de l'Afrique subsaharienne qui sont en train d'échanger avec leurs homologues des États-Unis sur le futur des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne.
Est-ce que les États africains, particulièrement la Côte d'Ivoire ou bien le Sénégal, profitent vraiment de l'AGOA et comment?
Les pays africains, comme vous les avez bien cités, deux pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, profitent de l'AGOA parce qu'ils ont la possibilité et surtout ils envoient des produits transformés à valeur ajoutée sur le marché américain et ces produits-là bénéficient d'une franchise en droit de douane dans le cadre de l'AGOA. Donc cela leur permet d'avoir une certaine compétitivité par rapport à d'autres pays qui exportent le même type de produits et qui donc n'ont pas les mêmes avantages que les pays éligibles à l'AGOA. Si je prends le cas du Sénégal qui exporte actuellement des thon transformés dans des boîtes de conserve vers les États-Unis, les taux de droits de douane sur ces conserves de thon-là sont élevés. Ça va de 35 à 40% de droits de douane. Et le fait que ce pays et ses produits sont éligibles dans le cadre de l'AGOA, ça leur fait un gain de compétitivité qui permet donc aux entreprises américaines d'acheter plutôt avec ces pays éligibles à l'AGOA plutôt que vers d'autres pays.
Kara Diallo, spécialiste de l'AGOA à l'agence USAID en Côte d'Ivoire.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Pour terminer, dans presque tous les pays africains, le conte a occupé une place centrale dans l'éducation des enfants, mais les traditions se perdent avec l'intrusion des téléphones portables et autres tablettes. Un enseignant malien basé à Nashville, dans le Tennessee, ici aux États-Unis, veut combler le vide. Il est auteur, entre autres, d'un recueil de contes intitulé « Suturua », La princesse Songoï, qui est traduit en 15 langues, dont 10 africaines. Modibo Dambélé a eu comme invité, hier, dans nos studios, Abou Salam Maïga, enseignant à Nashville.
J'ai écrit des livres parce que l'Afrique a énormément de contes qui renferment des leçons de morale qu'il faut partager avec le reste du monde.
À la date d'aujourd'hui, vous avez combien de livres à votre actif?
J'ai 2 livres qui ont été publiés. Le premier a été publié en 15 langues, 10 langues africaines et 5 langues gréco-romaines. Et ensuite, mon second livre a été traduit en anglais et en français. En ce moment, je travaille sur un troisième livre.
Et quels sont vos thèmes de prédilection?
Les thèmes que j'aborde, c'est surtout l'éducation, les valeurs ancestrales, l'amour, la justice et le social.
Quel intérêt la jeunesse africaine, singulièrement malienne, pourrait-elle tirer de l'usage des contes?
En Afrique, les contes ont servi d'école. Et chaque conte renferme des leçons de morale qui déterminent les conduites à tenir face à certaines situations. Et les contes également sont un moyen de véhiculer les connaissances. Donc les contes sont là pour nous éduquer, pour nous informer et pour nous dire ce qu'il faut faire dans la vie.
Et rapidement, est-ce que vous avez un petit conte pour la jeunesse africaine qui vous écoute actuellement?
Je parle de l'histoire de cet homme qui avait ramassé une fortune dans la mosquée. Et quand il est parti voir sa femme, il informe sa femme qu'il vient d'avoir un trésor. Sa femme lui dit « Non, tu dois retourner ce trésor à son propriétaire ». Il était vraiment déçu parce qu'il voulait garder l'or pour sa propre personne. Mais il a décidé de suivre les conseils de sa femme. Il retourne à la mosquée. Après la prière, il demande celui qui aurait perdu son or. Il y a un homme qui s'est démarqué du public. Il dit « Bon, voilà, cet or m'appartient ». Il lui remet son or et l'homme a attendu jusqu'à ce que quand l'homme qui avait ramassé l'or rentrait chez lui, le propriétaire de l'or l'avait interpellé à quelques mètres de la mosquée, dit « Bon, voilà, cet or, je ne l'ai pas perdu, mais je l'ai laissé expressement à la mosquée. » Et je me suis fait la promesse de donner 100 fois le volume de cet or perdu à celui qui va l'amener volontairement. Et l'homme qui avait fait ça, il était à la recherche d'un pauvre mais honnête personne. Donc l'honnêteté, ça a toujours été une vertu que les Africains ont cultivé dans leur comportement de tous les jours.
En dehors de l'honnêteté, quelle autre leçon de morale peut-on tirer de ces contes?
C'est également la coopération entre hommes et femmes. Les hommes et les femmes doivent se compléter. Dans un foyer, il faut échanger avec son partenaire. Et ça montre que l'Afrique d'antan, ce n'est pas une Afrique qui met à côté la femme. La femme a un rôle essentiel à jouer dans la promotion de la famille et de la société.
Abdou Salam Maïga, enseignant malien à Nashville, dans le Tennessee.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi, à 19h05, temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console Daryl Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.